Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Aujourd'hui, une émission intitulée « De Duguesclin à Iron Man, le glaive et le bouclier », diffusée une première fois le 16 novembre 2013.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Oh Dieu, qu'est pas frais ! De ma vie, j'ai jamais eu si froid aux pieds, moi. Dis, c'est encore loin, cette colline de Valby ? Où paraît-il, on doit retrouver le 54e d'infanterie, ci-devant régiment du Roussillon.
Ça doit être cette petite butte, avec un moulin dessus.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Deux actualités conjuguées, l'une mémorielle, l'autre immédiate, m'ont inspiré l'idée du thème dont nous allons traiter ce matin. Il s'agit du statut du soldat dans les armées. Du soldat considéré comme individu autonome ou bien comme simple rouage d'une machine qui réduirait jusqu'à l'extrême la liberté de sa différence, broyant chez lui toute spécificité personnelle et civique. D'un côté, le centenaire nous ramène à la Grande Guerre qui fut de masse et qui tua près d'1,5 million de Français dont l'anonymat n'a pas toujours pu être arraché à la boue des ensevelissements collectifs. De l'autre côté, en vif contraste, la guerre récente au Mali qui est celle d'une époque, la nôtre, où chez les nations démocratiques, chaque combattant tué représente, même s'il est professionnel du risque, un quasi-scandale aux yeux de la collectivité, où il est honoré personnellement par les pouvoirs publics, tandis que les magazines nous renseignent sur chaque détail de sa vie familiale brisée, si bien que l'héroïsme individuel s'en trouve au premier chef magnifié. Est-ce donc là une évolution linéaire ? Sûrement pas. L'histoire militaire nous montre au contraire qu'ont alterné les périodes où la valeur propre de chaque guerrier pouvait se déployer à loisir sous le regard de la société pour laquelle il combattait et celle où la vaillance ou les dérobades de chacun étaient enveloppées dans un système radical dont la mécanique était destinée à oblitérer toute spécificité. Hervé Drévillon, professeur à la Sorbonne, où il dirige l'Institut des études de la guerre et de la paix, va nous apporter ce matin ses lumières. Pour comprendre comment l'interminable dialectique du glaive et du bouclier a contribué, en l'occurrence avec des facteurs plus exogènes, à définir les pulsations de cette évolution. Voici donc un regard sur ce qui, d'âge en âge, de Duguesclin à Iron Man, l'homme de fer, a pu être sauvegardé de l'individuel dans la guerre.
J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Je ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant l'a bien fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant l'a bien fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, une sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un piquet. Et fallait se tenir droit, aussi droit qu'un piquet. Il y en avait sur leurs chevaux qui faisaient bien 2 mètres, avec 2 ou 3 plumes zozio plantées dessus leur tête et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Et des poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Ils m'ont placé en faction devant une citadelle. Ceux qui ne connaissions point mon nom m'appelions Sentinelle. À chaque chat qui passait, fallait crier couchi couchet. À chaque chat qui passait, fallait crier coucchi couché. Ils m'ont mené dans un grand champ, Cap-Lion, champ de bataille. On s'étripait, on s'épiolait, c'était pique de la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et me voici.
Hervé de Réveillon, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer une chanson de soldat, anonyme d'ailleurs, de la fin du XVIIIe siècle, semble-t-il, qui est interprétée, probablement, qui est interprétée par Yves Montand en 1955. J'avions reçu commandement. Je l'ai choisi, outre le plaisir qu'on peut avoir à l'entendre, parce qu'elle me paraît nous conduire assez vite à la grande question de l'individu en face d'un système qui éventuellement le dépasse et où pourtant il peut peut-être affirmer sa différence.
Oui, en effet, on entend dans cette chanson un soldat enrôlé. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est un enrôlement contraint ou si c'est un enrôlement au titre, par exemple, de la milice, qui est la première forme de service militaire obligatoire, mise en place dès 1688 par Louvois, sous le règne de Louis XIV. On perçoit surtout le caractère conditionnel de cet engagement, c'est-à-dire que à la fin de la chanson, le soldat déserte, ce qui était d'ailleurs une habitude fréquente dans les armées de l'Ancien Régime.
Beaucoup de déserteurs.
On peut estimer à environ un quart, voire 30% de soldats. Alors, la désertion est une forme de mobilité non contrôlée, c'est-à-dire qu'un déserteur pouvait tout simplement changer de capitaine, c'est-à-dire signer un engagement avec un capitaine et puis ensuite déserter et re-signer un autre engagement avec un autre capitaine, touchant à chaque fois la prime d'engagement qui allait avec.
On peut aussi voir cela comme une forme de revanche de la liberté individuelle contre un système qui vous a mobilisé de force et qui vous réduit à un état un peu machinal.
Voilà, c'est tout à fait ça, puisque à partir justement de la naissance de la milice royale, mais également avec le développement de procédures de recrutement qui sont des procédures un petit peu contraignantes. Chacun a en tête l'image du sergent recruteur qui force le consentement de ceux qu'il va recruter.
Après l'avoir fait boire, souvent.
Après avoir fait boire, exactement, ou après avoir trompé le jeune homme sur les conditions de son service. Ce que l'on voit se développer, c'est effectivement le service militaire obligatoire. Et donc, la question qui est posée finalement à chaque soldat, de savoir pourquoi il sert, pourquoi il consent à donner sa vie, au service de quelle collectivité, au service de quelle entité, et en l'occurrence, l'entité qui commence à apparaître et à s'affirmer dans les débats, c'est bien la nation, et ce, dès le XVIIIe siècle.
Eh bien, nous allons considérer tout cela, Hervé de Réveillon, dans la longue durée. Et pourquoi ne remonterions-nous pas à l'Antiquité? Parce qu'il y a déjà eu toute une réflexion là sur le thème du citoyen enrôlé.
Ça a été essentiel dans l'histoire de Rome, dans l'histoire grecque aussi, puisqu'on a en tête le modèle du citoyen, de l'hoplite, qui sert dans les armées des cités grecques. Et effectivement, ce modèle a servi de référence au Moyen-Âge aussi, puisqu'on l'oublie trop souvent, mais le Moyen-Âge s'est constamment référé à la pensée militaire de l'Antiquité, mais surtout à la Renaissance, puisque il y a une renaissance militaire. Et cette renaissance militaire vise précisément à faire ressurgir le modèle de l'armée romaine. Et c'est ce qu'explique par exemple Machiavel dans L'Art de la guerre, qui date de 1520, et dans lequel Machiavel explique que le renouveau politique de la cité italienne doit passer par un renouveau militaire dans lequel l'armée doit être à la fois le vecteur de la violence d'État, mais aussi un facteur de régénération de la cité.
Ce livre de Machiavel, L'Art de la guerre, est moins connu que Le Prince, mais il est pour nous très, très riche d'enseignements. Il faut d'ailleurs voir si ce qu'il a prôné a été ou non incarné, ou si au contraire, d'une certaine façon, sa pensée a été un peu défaite. Que nous dit précisément Machiavel sur la place du citoyen dans l'armée, sur la place du soldat dans la nation, ou dans la cité en tout cas italienne?
Machiavel nous dit qu'une république, c'est-à-dire au sens de choses publiques, ne peut s'organiser qu'avec des soldats qui sont des citoyens. Il faut qu'une cité use de ses armes propres et non pas recourir à des mercenaires comme c'était le cas dans les cités italiennes à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.
Un État bien ordonné, nous dit-il, doit donc enjoindre aux citoyens l'art de la guerre, comme un exercice, un objet d'étude pendant la paix, et pendant la guerre comme un objet de nécessité et une occasion d'acquérir de la gloire. Mais c'est au gouvernement seul, ainsi que le pratiqua celui de Rome, à l'exercer comme métier. C'est déjà la question des mercenaires.
Nul ne doit exercer à titre individuel la guerre comme métier. Pour une raison simple, une première raison simple, qui est que ceux qui choisissent de faire ce métier-là sont par essence des gens qui sont peu recommandables, nous dit Machiavel. On ne peut pas choisir en étant un homme de bien comme vocation de tuer ses contemporains. Donc, l'armée doit être une armée citoyenne pour une autre raison aussi. C'est qu'une armée de type mercenarial peut se prêter à tous les coups d'État, à tous les coups de main politiques. Et donc, Machiavel a cette lecture de l'histoire de Rome qui consiste à montrer finalement que la décadence de Rome est aussi une décadence des mœurs militaires qui a amené les empereurs à utiliser l'armée comme d'un instrument au service de la tyrannie. Alors que pour faire pièce à ce modèle, il faut entretenir dans la cité des vertus guerrières qui sont aussi des vertus civiques.
On voit tout cela dans l'époque de la République romaine en particulier. Ça fait partie de l'enseignement moral d'un certain nombre d'auteurs fameux qui souvent d'ailleurs ont déploré après coup. Laudator temporis acti ont déploré que ces bonnes habitudes se soient perdues et qui ont vu l'origine d'une décadence.
Tout à fait. Et c'est aussi au nom d'une logique d'efficacité militaire. Parce que en organisant le service militaire sur la base d'un service obligatoire et universel, on peut choisir les meilleurs des citoyens. La notion d'élite vient même effectivement de ce système de l'élection qui permet de sélectionner les meilleurs citoyens pour faire la guerre.
Mais alors, dans la ligne de notre curiosité de ce matin, c'est-à-dire l'individu plus ou moins libre dans l'armée, est-ce qu'être mercenaire vous rend plus libre ou est-ce que le citoyen civis romanus qui devient soldat pour défendre sa patrie conserve dans la pratique et dans les représentations une autonomie plus grande?
Et c'est toute la tension telle qu'elle se dessine à l'époque moderne. C'est-à-dire que, certes, chacun se réfère au modèle de l'armée citoyenne qui est vraiment le point de référence commun à tous les penseurs de la chose militaire, à la Renaissance en particulier.
Et qu'on retrouve exactement dans l'Armée nouvelle de Jean Jaurès, ce grand livre de 1911,
exactement,
qui est entièrement imprégné par la préoccupation de garder un lien intime entre le mobilisé, entre le soldat et la nation et la patrie.
Tout à fait. C'est le modèle de référence. Toutefois, lorsque le citoyen devient soldat, la question est de savoir jusqu'à quel point il doit renoncer à son statut de citoyen. Et c'est cette tension-là qui a occupé les penseurs, mais aussi les réformateurs de la chose militaire du XVIe à la Première Guerre mondiale.
L'Antiquité est donc une des sources de la réflexion, de l'inspiration pendant longtemps. Et puis, il y a une autre figure sur laquelle il faut qu'on s'attarde un instant, c'est celle du chevalier en armure, du guerrier précieux et finalement libre dans sa spécificité, dont on chante les louanges. Partons, si vous voulez bien, de cette figure mythique dans la mémoire nationale, à travers les manuels, en particulier la Troisième République, du Guesclin, Bertrand du Guesclin. Voyez comment, en 1949, cette figure est évoquée dans un film de Bernard de Latour. C'est Fernand Gravet qui joue du Guesclin et Noël Roquevert qui raconte l'histoire. C'est le fidèle Jagu, le fidèle compagnon de du Guesclin.
Mais la fortune de guerre est plus capricieuse qu'une belle guerre. Et ce fut la dernière bataille dorée. Une sacrée maudite tuerie où le bon duc Charles de Blois s'était laissé entraîner par chevalerie malgré les conseils de notre Bertrand. Après 6 heures de mêlée, les Anglais nous avaient tourné et rompu. Monseigneur Charles, entouré, 16 fois blessé, se défendait encore en preux chevalier. Mais il s'effondra sous le nombre.
À moi, Guesclin !
Qu'il veuille prier pour nous en paradis.
Voilà.
Les plus vaillants de nos hommes étaient tués au prix. Bertrand et moi, nous avions beau besogner de l'épée et de l'âge comme des diables. Ce jour-là, le bon Dieu prit l'âme de notre duc dans son ciel et moi un coup d'épée dans l'épaule.
Ah ! C'est ça, putain !
Il me semble, Hervé Drévillon, qu'à défaut de la voir, on a bien senti ce qu'était cette mêlée assez indescriptible qui
correspond à la période où on pratiquait la guerre en armure. Alors, phénomène de groupe, où se font le courage personnel ou au contraire maintiennent celui-ci comme spécifique ?
Précisément les deux, parce que ce que l'on entend effectivement dans cet extrait, c'est la mêlée, c'est la confusion. Mais dans cette mêlée, cette confusion, se distingue un individu que l'on peut reconnaître parce qu'il porte des armes et des armoiries par lesquelles le héros d'armes qui sera chargé à la fin de la bataille de reconnaître les morts, mais aussi de dire la valeur de chacun, donc par laquelle le héros d'armes peut le reconnaître et peut reconnaître la singularité de son destin et de son courage.
Donc le récit, en quelque sorte, est anticipé. On est soucieux, absolument, au moment où on porte des coups, que cela soit su plus tard.
Oui, lorsqu'on crée un ordre de chevalerie, c'est dans la perspective de raconter les faits d'armes de chacun, selon le modèle de la table ronde. La table ronde sert à cela, sert à exposer collectivement l'héroïsme de chacun.
Une culture de la distinction.
Une culture de la distinction, mais qui ne vaut que pour un groupe particulier, qui est le groupe des chevaliers. Et donc, ces chevaliers se battent dans un contexte où ils sont environnés d'une mêlée, et cette fois d'une mêlée indistincte, où il n'est pas possible de distinguer des individus. Et lorsque dans les chroniques du Moyen-Âge, on raconte les batailles, certes on est attentif au sort des chevaliers dont on chante les louanges, mais on est tout à fait incapable de dire, par exemple, combien d'hommes étaient présents ce jour-là, combien de piétons sont morts dans telle ou telle bataille. Et lorsque l'on essaye de le faire, on s'aperçoit que les estimations sont tout à fait fantaisistes. On a parfois plus de morts que de participants à la bataille, parce qu'il n'y a aucune sensibilité vis-à-vis du sort des individus qui constituent la masse de l'armée. Et ça, c'est le statut de l'individu dans les armées du Moyen-Âge et avec lequel les armées de la Renaissance vont rompre. Puisqu'il s'agira à la Renaissance, finalement, de reconnaître cette fois chaque soldat comme individu au même titre qu'un chevalier. Et l'unité, par exemple, l'unité tactique élémentaire au Moyen-Âge, c'est la lance. La lance, c'est un chevalier et tous ses auxiliaires, qui constituent un groupe de 6 hommes environ. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui donne l'unité, c'est le chevalier, et les autres ne sont pris en compte que comme force supplétive et ne sont pas pris en compte en tant qu'individu. Alors qu'à la Renaissance, on invente un art de la guerre où l'unité élémentaire est l'individu que l'on va disposer selon des plans très géométriques dans des ordres de bataille.
Donc quand on lit Cervantes, c'est une mémoire nostalgique, mi-tendre, mi-ironique de ce qu'a pu être ce chevalier tel que vous venez de le décrire.
Voilà, c'est une nostalgie du temps où l'on pouvait se distinguer à la guerre, à condition bien sûr d'appartenir à cette catégorie. La confrontation que nous raconte Cervantes, la confrontation avec un ordre de guerre qui certes reconnaît chaque soldat en tant qu'individu, mais qui tend aussi à le fondre dans une logique collective où sa spécificité en tant qu'individu est niée. Et c'est toute cette tension qui est l'histoire de l'individu dans la guerre.
D'où l'importance de la Renaissance et de ses changements. Et pourtant, la Renaissance est encore le temps de cette figure mythique qu'est Bayard, dont nous avons tous appris et considéré l'éclat dès l'école primaire. On est un siècle et demi après Duguesclin. On le voit bien sous la Troisième République en particulier. Il apparaît dans le Tour de France par deux enfants, le fameux livre de Bruno de 1877 qui a tellement marqué les esprits dans la période qui sépare la guerre 70 et celle de 1914. Écoutez cet extrait lu par Pauline Jambet. Je vous rappelle qu'il s'agit de deux enfants qui sont contraints de parcourir la France, occasion de la raconter, après la défaite. Et il s'agit d'André et de Julien. André est l'aîné, Julien est le petit.
Avait un tel respect pour Bayard qu'il descendait de cheval pour le saluer. À ce moment, un prince français, Charles de Bourbon, qui avait trahi son pays et servait contre la France dans l'armée espagnole, s'approcha contre les autres de Bayard. « Eh, capitaine, dit-il, vous que j'ai toujours aimé pour votre grande bravoure et votre loyauté, que j'ai grand pitié de vous voir en cet état. « Ah, monseigneur, répondit Bayard, n'ayez point pitié de moi, mais plutôt de vous-même, qui êtes passé dans les rangs des ennemis et qui combattez à présent votre patrie au lieu de la servir. Moi, c'est pour ma patrie que je meurs. » Le duc de Bourbon, confus, s'éloigna sans répliquer. Peu de temps après, Bayard expira. Les ennemis, emportant son corps, lui firent de solennelles obsèques qui durèrent 2 jours, puis le renvoyèrent en France. « André, dit le petit Julien avec émotion, voilà un grand homme que j'aime beaucoup. » Et il ajouta tout bas, en s'approchant de son aîné, d'un petit air contrit. « Il me semblait que je ne me souciais plus de rien, que de vivre tranquille comme autrefois. Mais j'ai eu bien honte de moi, tout à l'heure, en lisant la vie de Bayard. « Oh André, j'ai dû te faire de la peine. Mais je vais tâcher à présent d'être plus raisonnable, tu vas voir. » André embrassa l'enfant. « À la bonne heure, mon Julien, lui dit-il. Nous ne sommes que de pauvres enfants, c'est vrai. Mais néanmoins, nous pouvons prendre ensemble la résolution d'être toujours courageux, nous aussi, et d'aimer, comme le grand Bayard, notre chère France par-dessus toute chose. »
C'était un extrait de l'émission « Les lieux de mémoire » de François Angelier sur France Culture, le 6 mars 1997. Alors, Hervé de Révillon, ce Bayard tel qu'il a été imaginé, peut-être fantasmé sous la Troisième République, est-ce qu'il est fidèle, ou est-ce que c'est une sorte de désuétude, une forme d'hystérésie qui s'est maintenue à une période où il ne correspondait plus à grand-chose, la Renaissance?
L'image du chevalier Bayard, d'ailleurs, elle a été importante à son époque même, puisque la mythologie autour de Bayard s'est construite dès le moment de sa mort, puisque immédiatement après celle-ci, 2 biographies ont été publiées et lui ont été consacrées.
Hagiographie, en fait ?
Hagiographie, tout à fait, en grande partie, où la figure de Bayard est associée aux grandes figures chevaleresques, dont certaines, d'ailleurs, sont de pures figures de fiction. Ce que représente Bayard au XVIe siècle, mais également sous la Troisième République, c'est finalement cette transition entre le Moyen-Âge, qui est le temps de la distinction individuelle, de la distinction aristocratique, et la naissance d'un ordre de guerre, mais aussi d'ailleurs d'un ordre politique, où l'individu se distingue au service du roi. Et cette idée du dévouement de Bayard qu'on a vu exprimer dans le Tour de France des 2 enfants, c'est l'idée qu'en retient la République, qui permet de faire de Bayard un héros patriotique, alors qu'il n'était en réalité que l'incarnation des vertus d'un groupe qui était la noblesse.
En somme, une sorte de servitude volontaire, comme a dit la Boétie, l'ami de Montaigne.
Absolument. Bayard, c'est celui, d'une certaine façon, qui royalise l'idéal chevaleresque. Il meurt au service de son roi et qui, ce faisant aussi, si je peux employer un autre néologisme, le patriotise. C'est-à-dire que Bayard meurt au service du roi, mais au service de la France, et c'est bien comme ça qu'on le voit sous la Troisième République.
D'où le propos final, célèbre, où il stigmatise le Français qui a trahi la patrie.
Le duc de Bourbon, en effet, qui a choisi de trahir son roi, parce que son roi l'avait un petit peu maltraité, il faut bien le reconnaître.
Le XVIIe siècle, c'est celui où on va voir s'installer vraiment le métier des armes avec l'importance de la discipline qui, du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire l'individu préservé ou non dans les armées. Au fond, on s'inspire d'un propos du théologien Pierre Charron, au XVIe siècle, qui disait « La nature fait peu de gens vaillants. C'est la bonne institution et c'est la bonne discipline. »
La discipline militaire, au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, est imprégnée des idéaux de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il s'agit de dresser le soldat, non seulement pour le soumettre, évidemment, à la contrainte disciplinaire, mais aussi pour l'élever et lui donner les vertus qu'il ne possédait pas naturellement.
Ambivalence, donc.
Bien sûr, ambivalence. Il y a une charge positive dans la discipline.
Le maîtriser et le promouvoir.
Absolument. L'armée telle qu'elle s'organise au XVIIe siècle, elle se professionnalise, fait de la discipline l'élément essentiel de l'organisation militaire pour une raison simple, qui est qu'on a compris au début du XVIIe siècle, que le modèle machiavélien d'une armée de soldats citoyens n'était pas possible.
Défaite de Machiavel.
Défaite de Machiavel, et pour une raison qui, en France, est très importante, c'est qu'à l'issue des guerres de religion, on a compris qu'on ne pouvait pas faire de l'armée le reflet de la société, puisque cette société était déchirée. Et donc l'armée s'impose comme un moyen d'ailleurs d'arbitrage du conflit religieux. La meilleure façon que Louis XIII a trouvé d'intégrer les protestants, c'est de les intégrer dans l'armée. Parce que dans l'armée, catholiques et protestants parlent le même langage. Il y a un idéal commun, qui est l'idéal des armes. Et donc, la discipline, c'est cette vertu qui va permettre de transporter les individus hors de leurs conditions et hors même de leur religion, d'une certaine façon. Une des figures qui est associée aux soldats protestants au XVIIe, c'est la figure de la conversion. Voyez Turenne, par exemple, qui est un maréchal de France, protestant, fait maréchal de France parce que protestant, mais qui se convertit. Il y a là, je crois, une double conversion, qui est la conversion religieuse, mais aussi la conversion à l'état militaire.
Mais c'est aussi le temps où Richelieu considère que la France est une nation qui n'est pas propre à la guerre et que par conséquent il faut imposer justement cette impérieuse discipline.
Exactement. Pour Richelieu, les Français sont pleins d'audace, pleins de courage, mais manquent de constance dans l'effort. Et donc ils se découragent à la première difficulté. Donc la France n'est pas une nation guerrière selon Richelieu. Et puis il y a une autre raison, c'est que la France a connu pendant les guerres de religion le désordre civil, le conflit. Et donc l'armée sera, pour Richelieu, un des instruments de la reconstruction de l'autorité de l'État. Dès lors, les soldats qui s'engagent dans cette armée ne le font pas par civisme, ne le font pas pour défendre la nation, ils le font par intérêt personnel, par des motivations d'ailleurs qui restent très obscures pour les observateurs du XVIIe siècle.
Pourquoi on s'engage, oui.
Pourquoi on s'engage ? Pourquoi est-ce qu'on devient soldat ? On ne sait pas vraiment. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les soldats se sont engagés, il faut les maintenir au service par une discipline de fer. Et là, la discipline change de sens. C'est-à-dire qu'elle abandonne le paradigme de la vertu, le paradigme éducatif qui était celui de la Renaissance, pour se réduire à un strict dispositif coercitif. Parce que l'armée étant la chose de l'État, elle ne peut parvenir à soumettre les individus que par l'autorité.
Est-ce que tout cela est lié à une évolution de l'armement ? Parce qu'on a le sentiment que dans la dialectique éternelle du glaive et du bouclier, qui change sans cesse, cela compte et cela pèse sur la situation du soldat comme individu ou comme pièce d'une machine qu'il dépasse.
Tout à fait. Cette évolution, elle est parallèle au développement de l'arme à feu individuelle.
Passage du mousquet au fusil.
Voilà, le passage du mousquet au fusil, et même auparavant, le passage de l'arquebuse au mousquet, qui sont là des évolutions techniques plus précises. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le mousquet comme dans le fusil, on a des procédures de chargement de l'arme qui sont extrêmement fastidieuses et très lentes. Un soldat n'arrive à tirer que un ou deux coups par minute dans une bataille.
Ça peut faire deux morts.
Ça peut faire de mort dans le meilleur des cas, mais ce sont des armes qui sont en même temps très imprécises, qui ont une portée très faible. Et donc, pour que le feu soit efficace, il faut qu'il soit collectif. Le feu individuel n'existe pas. Un soldat ne vise pas. D'abord, il n'y a pas d'instrument de visée sur son arme. Et donc, le feu ne fonctionne que par l'efficacité collective. Dès lors, il exige une discipline de fer. Il faut que chacun recharge son arme selon une coordination impeccable qui est réglée à la seconde et au millimètre près. Les règlements militaires du XVIIe puis ceux du XVIIIe siècle sont extrêmement pointilleux sur ce point et extrêmement exigeants vis-à-vis de l'individu.
Mais est-ce que la baïonnette qui apparaît aussi en ces temps-là et qu'on accroche au bout du fusil ne restitue pas précisément une individualité à l'effort et au courage ?
Absolument. La baïonnette qui équipe le fusil est un des instruments essentiels de l'individuation du soldat, puisque avec son fusil équipé d'une baïonnette, il est à la fois l'offensive et la défensive, il est le fer et le feu. Il y a donc un potentiel d'autonomisation du soldat, d'ailleurs qu'avait très bien remarqué Michel Foucault dans Surveiller et punir.
Ça date de quand la baïonnette ?
C'est 1703. Et en même temps que le soldat s'individualise et s'autonomise, il est soumis à des règlements qui sont de plus en plus contraignants et à une discipline de plus en plus contraignante. Et c'est tout le paradoxe. Il y a un potentiel d'affirmation de l'individu dans les armées du XVIIIe siècle et en même temps des dispositifs collectifs qui deviennent de plus en plus contraignants pour les individus.
Et c'est là que la rupture est éclatante avec la Révolution française, puisque c'est un des députés à l'Assemblée nationale, Charles Chabroux, qui dit « Celui que la loi soumet à l'obéissance doit encore, comme homme et comme citoyen, être respecté. Il y a pour le soldat de tous les rangs un honneur délicat qui ne doit pas être blessé. Il y a une dignité d'homme et de citoyen que le soldat n'a pas abdiqué. » C'est au fond l'esprit des soldats de l'an 2, c'est l'esprit de Valmy. Alors vous auriez été déçu, Hervé de Révision, si je ne vous avais pas donné à entendre un extrait de La Marseillaise de Jean Renoir, le grand film de 1938. C'est la fin, en fait, au moment où les soldats venus du Roussillon arrivent sur la colline de Valmy.
Vous dites, qu'est pas frais ? De ma vie, j'ai jamais eu si froid aux pieds, moi.
Dis, c'est encore loin, cette colline de Valmy ? Vous paraît-il, on doit retrouver le 54e d'infanterie, ci-devant régiment du Roussillon.
Ça doit être cette petite butte, avec un moulin dessus.
Ah oui?
Et les Prussiens, où ils sont? Sûrement là derrière. Tu vois où il y a cette petite canonnade?
Oui.
Ils cherchent à gagner la route de Châlons.
Mais s'ils la prennent, la route de Châlons?
Alors, ils continueront sur Paris.
Ce sera la fin de notre révolution. Et notre pauvre Baumier, il sera mort pour rien.
Non, pas pour rien. Car même si aujourd'hui les canons des Prussiens nous écrasent, ils n'arriveront pas à écraser ce que nous avons apporté au monde. Vois-tu, avant nous, les peuples étaient en face de la liberté, comme un amoureux devant une femme à qui il aurait été interdit même d'adresser la parole. Et brusquement, grâce à nous, voilà que notre homme peut enfin tenir sa bien-aimée dans ses bras. Et bien sûr, elle n'est pas encore sa maîtresse. Il devra se donner du mal pour terminer sa conquête. Mais maintenant qu'ils se connaissent, même si on les sépare, un jour ou l'autre, ils se retrouveront.
Javel, qu'est-ce que tu as me dit, toi?
Eh bien, moi, je dis que les 20 000 esclaves et les 5 000 traîtres qui sont là-bas en face ne viendront jamais à bout de 20 millions d'hommes libres. Vive la liberté!
Bonne occasion d'inciter nos auditeurs à aller revoir ce beau film. Voilà l'irruption du soldat libre qui, de surcroît, sert les forces de la liberté, qui demeure libre sous les armes.
Oui, c'est la naissance du principe du soldat citoyen qui, à Valmy, d'ailleurs, rejoint le citoyen-soldat. C'est-à-dire qu'on voit converger dans ce moment-là, d'ailleurs dans l'extrait, les volontaires disent qu'ils vont rejoindre les soldats de l'armée régulière, du ci-devant régiment de je ne sais plus. Et donc, les volontaires, ce sont les citoyens-soldats. C'est ceux qui, étant citoyens, décident de prendre les armes. Et n'oublions pas que Valmy, le lendemain, est suivi par la proclamation de la République. Et ils vont rejoindre sur le même champ de bataille des soldats qui étaient des soldats professionnels et qui sont devenus les soldats de la République.
Amalgame.
L'amalgame, c'est la préfiguration, puisque l'amalgame date de février 1793, mais Valmy en est la préfiguration. Et on voit là converger, bien sûr, l'idéal militaire et l'idéal civique, qui, jusqu'à la Révolution française, coexistaient, ces deux idéaux, mais de façon conflictuelle. Tout poussait, avant la Révolution française, vers la reconnaissance du soldat comme un individu doté de dignité, c'est ce que dit le député Chabroux à l'Assemblée nationale constituante. Tout poussait à la reconnaissance de sa dignité, mais les lois de l'Ancien Régime s'y opposaient. Les lois de l'Ancien Régime, par exemple, qui empêchaient qu'un soldat soit promu officier. Et donc, comment faire appel à la dignité du soldat sans reconnaître sa capacité un jour à devenir officier? Voilà un exemple des contradictions dans laquelle la société d'Ancien Régime, la société militaire d'Ancien Régime, se débattait. Et voilà la solution qui est apportée par la Révolution française. On reconnaît à chaque individu d'abord un certain nombre de droits inaliénables, et c'est ce que fait la Révolution française. Elle commence par doter le soldat d'un statut pénal. Il y a Chabroux, par exemple, que l'on évoquait tout à l'heure, était le rapporteur d'un projet de code pénal militaire. Il s'agissait là, donc, de faire en sorte que le soldat conserve les droits imprescriptibles de citoyens. Mais au-delà, il s'agissait aussi de reconnaître sa dignité, puisque, nous dit Chabroux, le soldat est un homme d'honneur.
C'est d'ailleurs le début d'une longue histoire de l'évolution des codes militaires jusqu'à la période récente, qui tourne autour de la question du droit à la désobéissance en cas d'ordre malvenu, incongru ou coupable.
Exactement. Et le problème aussi posé aujourd'hui par ce que l'on appelle la judiciarisation du militaire, puisque nous sommes arrivés en quelque sorte au terme de cette évolution, puisque désormais on se met à juger des soldats au nom de principes de droit qui sont des principes de droit commun. Est-ce que le soldat qui déserte aujourd'hui, par exemple, est l'auteur d'une rupture unilatérale d'un contrat de travail?
Et aussi, d'ailleurs, jugement sur la manière dont les officiers ont donné leurs ordres.
Est-ce que, par exemple, une blessure de guerre est un accident du travail?
Une évolution qui s'est arrêtée ou qui a, en tout cas, s'est infléchie au moment, évidemment, de l'Empire. On a gardé l'armée comme lieu de promotion sociale. Vous voyez un certain nombre des maréchaux de Napoléon. Mais, en revanche, il y a intrusion dans la guerre de masse avec une réinstallation d'une discipline de fer.
Lieu de promotion sociale et de promotion politique, puisque l'armée devient aussi, sous la Révolution française, une fabrique de la citoyenneté. Par exemple, la constitution de l'an 3, qui est la constitution du directoire, réserve l'accès à la citoyenneté à ceux qui peuvent s'acquitter d'une contribution fiscale, à l'exception des soldats, qui, eux, seront dispensés de cette clause dès lors qu'ils auront servi au moins une campagne. Et donc, le service militaire devient une modalité d'accès à la citoyenneté, voire, plus que cela, un modèle de la citoyenneté. Parce que l'armée, en particulier au moment où on élit les officiers, pendant un bref temps, mais l'armée est un modèle d'exercice de la démocratie. C'est le lieu, par exemple, où la valeur est transparente, où on sait qui est un homme de valeur, puisqu'on l'a vu subir l'épreuve du feu. Et donc, de nombreux députés expliquent que c'est là que s'exprime par excellence la valeur civique.
On est vraiment passé du sujet recruté au citoyen mobilisé.
Exactement. Et sous l'Empire, c'est sur ce modèle-là que Napoléon a construit son armée. Ce modèle-là, il l'infléchit sensiblement, puisque l'armée, progressivement sous Napoléon, cesse d'être la République en armes pour devenir un corps constitué avec ses logiques propres qui échappent aux lois communes de la société. L'armée engendre ses codes, engendre ses valeurs,
ses tribunaux,
son vocabulaire. On voit se développer un argot militaire et surtout son système de valeurs qui lui est propre, où l'honneur acquiert désormais une valeur très spécifique. Il y a un honneur militaire qui se traduit, par exemple, par la multiplication des duels, où chacun va défendre l'honneur du groupe auquel il se sent attaché.
La période de Napoléon, c'est aussi celle d'une sorte de guerre de masse.
Oui, on voit s'introduire des logiques, alors qui sont d'abord des logiques d'ordre tactique et stratégique, c'est-à-dire que Napoléon invente un art de la guerre où la décision est obtenue grâce au principe de la concentration des forces. C'est vraiment ce qui caractérise l'art de la guerre napoléonien. Et donc, pour concentrer des forces, il faut disposer d'un grand nombre d'hommes. Et on voit donc se développer ces batailles gigantesques, mobilisant des effectifs absolument inouïs.
Et beaucoup d'étrangers, parmi lesquels, évidemment, les citoyens français se trouvent souvent minoritaires.
Voilà, minoritaires. Pas forcément, mais en tout cas, la Grande Armée, par exemple, est régulièrement composée d'environ 20% d'étrangers. L'armée qui pénètre en Russie lors de la campagne de Russie est une armée cosmopolite. Et donc, cette armée, effectivement, renvoie désormais à autre chose qu'à la nation. C'est une armée que Napoléon utilise comme un instrument au service d'un projet militaire, d'un projet impérial. Et donc, on perd de vue, en effet, ces valeurs constitutives de la citoyenneté, même si cette armée est toujours recrutée au nom du principe de la conscription. Mais on voit refluer ce principe politique et, par ailleurs, on voit refluer ce principe qui faisait du soldat un être singulier qu'il s'agissait de récompenser, de reconnaître tel quel, au nom d'une logique de masse que l'on voit se manifester. Et c'est ce que, par exemple, perçoivent beaucoup de contemporains au moment de la campagne de Russie, par exemple.
Mais c'est lié, en fait, aux guerres et aux batailles qui sont effroyablement coûteuses en hommes, plus que sous la Révolution. Je pense, par exemple, on cite toujours le cas, non seulement de la campagne de Russie, mais de la boucherie d'Eylau, tel soldat qui a combattu au bataillon des chasseurs à pied de la garde, Jean-Baptiste Barrès, évoque la stupeur de la troupe devant un spectacle horrible comme celui du champ de bataille. Ainsi se termina la journée la plus sanglante, la plus horrible boucherie d'hommes qui ait eu lieu depuis le commencement des guerres de la Révolution. Contraste donc avec la Révolution, les pertes furent énormes dans les deux armées et quoique vainqueurs, nous étions aussi maltraités que les vaincus.
Et les soldats de l'Empire en verront d'autres. C'est-à-dire qu'après Eylau, nous avons Brodino, par exemple. Nous avons Leipzig, où on atteint des taux de pertes, c'est-à-dire morts et blessés, autour de 30%, ce qui est véritablement inouï. Au cours du XVIIIe siècle, seules les guerres de Frédéric II contre les Russes et contre les Autrichiens avaient permis d'atteindre des taux de pertes aussi élevés. Pendant la Révolution française, on a assisté à des batailles très peu coûteuses en vie humaine. C'est même, selon certaines estimations, le minimum que les guerres modernes aient jamais connu.
Qui laissait donc surgir de façon plus lisible la vaillance spécifique des soldats comme individus.
Exactement, et qui permettait aussi d'obtenir une forme de décision sur le champ de bataille où, effectivement, l'individu pouvait avoir sa part en tant que tel. Sous l'Empire, on a l'impression que c'est vraiment la confrontation de masse d'hommes qui devient l'ultima ratio de la guerre.
Et cela se poursuit évidemment pendant la Grande Guerre, pendant la Première Guerre mondiale, qui est à nouveau une guerre de masse. Dans l'intervalle, il n'y a guère eu que la guerre de sécession qui a connu un pourcentage de tués aussi grand par rapport à la population. La guerre de 1914-1918, c'est précisément celle où, à nouveau, on demande aux soldats, même aux soldats laboureurs dont on parlait au XIXe siècle, de se fondre dans un ensemble en croyant à la puissance de l'offensive, au moins jusqu'à la bataille de la Marne. Rappelons-nous l'ordre du jour célèbre de Joffre, le 6 septembre 1914.
Au moment où va s'engager une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée.
C'était une archive d'interactualité du 7 septembre 1964, à l'occasion du 50e anniversaire de la bataille. Alors, on y est, Hervé Drévillon. Le soldat est redevenu, souvent presque anonymement, chair à canon.
Au nom d'une logique qui est formulée d'ailleurs et qui est reconnue comme telle, qui est la logique de la guerre de masse qui a été théorisée par des hommes comme Foch, par exemple, et qui devient le modèle de référence. Et Foch était partisan de cette doctrine qui ne s'est pas imposée sans opposition. D'autres, par exemple, comme Pétain, qui lui aussi a enseigné à l'école de guerre, étaient opposés à ce type d'organisation et à ce type de conception. Pour Pétain, la guerre restait encore l'affaire d'individus.
Attaquant, attaquant, attaquant comme la lune, c'est un mot qu'on répétait à l'époque.
Exactement. Et avant que la guerre survienne, cette critique existe. Des hommes comme Pétain, comme le général de Négrier, par exemple, se sont opposés à ce qu'ils sentaient venir, c'est-à-dire cette guerre qui exigeait a priori le sacrifice des individus. Et d'autres, évidemment, s'y sont opposés pour des raisons politiques. Je pense, par exemple, à Jaurès dans l'Armée nouvelle. 1911, Jaurès défend l'idée d'une guerre menée par des individus consentant librement au sacrifice de leur vie. C'est une armée de milices à laquelle Jaurès se réfère parce que, selon Jaurès, eh bien, cette armée de milices est plus respectueuse du citoyen et de l'individu, alors que la logique de masse renvoie à une autre conception de la nation, qui est celle que l'on trouve chez Déroulède, chez Barrès, chez les ligues nationalistes, qui est la conception de la nation se substituant aux individus, étant un corps animé d'une volonté propre qui ne tient pas compte de ses composantes individuelles. Et c'est cette conception-là qui triomphe à la veille de la Première Guerre mondiale.
Et je ne peux pas me priver de la satisfaction de vous proposer d'écouter une chanson fameuse qui s'appelle « Ma petite Mimi ». Mimi, c'est la mitrailleuse. C'est une chanson de 1915 de Théodore Botrel, vous savez, le barde breton, l'auteur de la Paimpolaise, sur une musique de Vincent Scotto. Et à la suite d'une autre chanson qui avait eu grand succès avant 1914, c'est-à-dire « Ma tonkiki, ma tonkinoise ». C'est Marc Augeret qui l'interprète en 1993.
à la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme, quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur, quand elle chante à sa manière, ta 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 ta. Ah, que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, je la graisse, je la stique et je la polie. De sa culasse jolie, à sa petite gueule chérie. Très habile, je la défile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, ta 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 ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Si les boches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, je précipite le fauchage. Comme des mouches, je vous couche, tous les soldats du Kaiser. Le nez sur nos fils de fer et les quatre fers en l'air. Quand elle chante à sa manière, ta 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 ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout pas et tout lasse, même la guerre et l'un de ces jours, ou bien l'une de ces années, nous la verrons terminée. Alors vite, ma petite, glorieuse, oh mes amours, nous devrons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, ta 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 ta, en te voyant endormi, je te dirai, cher ami, fais dodo ma glorieuse, ma petite mimi, ma mitrailleuse, et des pleurs mouilleront mes yeux quand je te ferai mes adieux.
Elle est vraiment saisissante, cette chanson, n'est-ce pas, Hervé de Révillon? Elle est interprétée en 93 ici par Marc Augeret. Je rappelle que c'est Alexandre Millerand qui était le ministre de la guerre des débuts du conflit, qui avait demandé à Théodore Botrel d'aller distraire avec ce type de production les poilus sur le front.
On en perçoit aujourd'hui toute l'ambiguïté, puisque effectivement c'est une chanson qui traite de la violence, violence de guerre.
Thanatos et Eros, c'est d'ailleurs lourdement
absolument métaphorique. Voilà, sur un mode donc comique, mais c'est aussi une chanson qui peut être interprétée aussi comme une charge antimilitariste, ce qu'elle a été d'ailleurs par la suite. Elle est souvent exploitée comme telle.
Au premier degré d'abord et ensuite naturellement.
Exactement.
Bon, je ne pense pas que Marc Augeret, en effet, approuvait ce type de production.
C'est une chanson donc qui raconte d'abord le rapport d'un individu à son arme. Revoilà l'individu. Et en effet, ça n'est pas parce que nous sommes dans une guerre de masse, évidemment, que l'individu disparaît. Mais précisément, cette guerre de masse place l'individu dans une situation extrêmement dramatique qui, finalement, est exprimée par cette chanson sur le mode humoristique. Ce que l'on perçoit à travers ce doux bruit de la mitrailleuse, c'est la mort à l'échelle industrielle. Et c'est bien ce qui apparaît dès les premiers jours du conflit. La Première Guerre mondiale a totalement inversé la proportion des pertes dues aux armements individuels et aux armements collectifs. Jusqu'à présent, au moins trois quarts des hommes, dans toutes les guerres qu'on avait observées jusqu'à présent, trois quarts des hommes, voire plus, 80, voire 90%, étaient tués par une arme à feu individuelle.
Ou par un corps à corps, dans certains cas.
Ou par un corps à corps, mais ce qui était quand même plus rare. C'était donc des individus à la guerre qui tuaient d'autres individus. Dès les premières semaines de 1914, eh bien la proportion s'inverse. C'est 75% des pertes dues à l'artillerie ou à des armements tels que la mitrailleuse. N'oublions pas que la mitrailleuse était initialement appelée canon à balles. Elle n'a porté ce nom que justement à partir de la Première Guerre mondiale.
Je rappelle d'ailleurs en passant que Rosalie, qui est évoquée dans la chanson, c'est le doux nom que l'on donne à la baïonnette.
Qui est un compagnon de la vie quotidienne, d'ailleurs, plus qu'une arme, puisque les occasions de se servir de la baïonnette, malgré ce qu'imaginaient et ce que projetaient les règlements militaires, ces occasions sont quand même très rares.
Bien plus représentatif et par conséquent, le célèbre canon de 75 qui a été mis en service en 1897.
Voilà, qui est une véritable, un monument national, puisqu'on imagine précisément qu'avec cette arme, on va gagner la guerre. Et en effet, cette arme est tout à fait emblématique de la nouvelle façon de mener la guerre, qui devient une façon industrielle, et on le verra d'ailleurs avec l'utilisation des gaz de combat, puis ensuite des bombardements aériens qui revêtent pour certains une véritable dimension stratégique.
Vu d'ici, vu de notre actualité, Hervé de Révillon, est-ce qu'il faut finalement considérer que la guerre de 14-18, suivie par la Seconde Guerre mondiale, qui était encore beaucoup plus une guerre de masse, si c'est possible, qui a concerné une grande quantité de civils. Est-ce que ce schéma, est-ce que cette organisation, est-ce que cet écrasement, en somme, des individus, malgré la mitraillette et malgré les combats du ciel, est-ce que cela est durable ou au contraire, est-ce que notre actualité peut conduire à penser qu'il y a un retour en arrière et un retour vers l'individu? Je pense notamment à la manière dont on organise les guerres du côté des nations occidentales. L'effort pour aboutir, de façon qui aurait stupéfait nos ancêtres, à une guerre presque zéro mort. Et cela implique un retour de l'individu harnaché, de l'individu renforcé par toutes les merveilles des technologies modernes. Est-ce que c'est vraiment une période neuve où nous sommes? Est-ce qu'il y a rupture avec tout ce que nous avons vu dans le passé, Hervé de Révillon?
Oui, sans aucun doute, il y a une véritable rupture, puisque après l'épisode des deux guerres mondiales, qui ont été vraiment le temps de la guerre totale, le temps de ces logiques de masse, de ces massacres de masse, eh bien, nous en revenons maintenant à une façon de faire la guerre où l'individu occupe une place essentielle, de plusieurs points de vue d'ailleurs, du point de vue des sensibilités. En effet, aujourd'hui, les sociétés occidentales sont extrêmement sensibles au sort des individus dans la guerre. Chaque mort est évoquée, célébrée, individualisé.
Dénommé, on est très très loin. Exactement. Du soldat inconnu qui incarnait la douleur collective en 1919.
Tout à fait, chaque soldat est nommé et en effet, dans l'équipement individuel maintenant des soldats, il y a une place très importante qui est accordée à la protection. Casque, gilet qu'on appelle gilet pare-balles communément, mais qui protège de tous les éclats, mais également aussi faire du soldat un acteur essentiel de l'espace du champ de bataille qui est désormais un espace numérisé. C'est le système félin, donc qui est un acronyme pour fantassin à équipement et liaison intégrée, qui est en train d'équiper actuellement les fantassins de l'armée française. Ce système-là permet d'intégrer par un système d'information extrêmement perfectionné le soldat dans un environnement qui est un environnement d'information. Le soldat reçoit des informations qui lui sont transmises par satellite, par les drones, par toutes les voies possibles de transmission. Il est lui-même un capteur et donc il permet de transmettre des informations aux échelons du commandement, de sorte que sur le champ de bataille, désormais, le soldat devient un acteur en possession d'un système d'information qui auparavant était réservé au général. Le soldat peut tout connaître, il peut même entrer directement en liaison avec le chef des armées. On peut imaginer aujourd'hui un soldat en opération ayant dans son viseur une cible potentielle et demander au président de la République s'il peut ouvrir le feu ou pas.
Quand nous parlons de guerre économe en vie humaine, il s'agit évidemment de vie humaine occidentale. Parce que si l'on considère à la lumière de la longue durée ce qui se passe en Irak, on est frappé par le fait que les Américains se protègent, arrivent pratiquement à une guerre sans mort de leur point de vue, mais à quel prix ? Du point de vue des autres, je vois avec quelque stupéfaction que des statistiques montreraient qu'il a fallu aux Américains, en Irak comme en Afghanistan, une moyenne de 300 000 cartouches pour tuer un rebelle. 300 000.
Ce sont des guerres que l'on ne mesure plus comme on le faisait autrefois. On pouvait faire auparavant le bilan d'une bataille napoléonienne, par exemple, en comptant le nombre de morts. Et en essayant de voir, par exemple, qui avait le plus perdu, c'est un des critères essentiels d'évaluation de la guerre. D'ailleurs, quand on parle de la Première Guerre mondiale, on cite souvent le nombre des pertes, etc. Aujourd'hui, la question n'est plus posée de la même façon. D'abord, parce que la relation aux pertes est totalement disproportionnée. En effet, dans ces guerres dites irrégulières ou asymétriques, eh bien, les puissances qui l'amènent, les puissances étatiques qui l'amènent, perdent assez peu de vie humaine. En revanche, ils investissent des moyens qui financièrement sont absolument considérables. Il y a donc une disproportion vis-à-vis des sociétés dans lesquelles ces guerres sont menées, où là, les pertes en vie humaine sont très élevées et où les moyens militaires déployés par les adversaires des armées occidentales, eux, sont très limités. Donc, ce sont des guerres, effectivement, qu'on dit asymétriques parce que tout y est totalement disproportionné. Du point de vue des pertes, du point de vue des moyens mis en œuvre et du point de vue aussi des logiques qui sont confrontées. Les armées de l'OTAN, américaines ou françaises, agissent au nom d'un référentiel qui est, grosso modo, le droit de la guerre tel qu'il a pu se constituer en plusieurs siècles d'histoire.
Avec toujours la défense des libertés individuelles, l'idée qu'on défend une civilisation où l'individu reste important même s'il est sous les armes. Et en face, une sorte de masse un peu indistincte. Quand on tire sur les véhicules qui arrivent vers les tanks américains simplement parce qu'on craint que ce soit des kamikazes un peu au hasard, lorsqu'on tue un grand nombre de populations de l'autre côté, c'est dissymétrie. Est assez effrayante et au fond perpétue dans la simultanéité des différences que chronologiquement on a pu discerner au cours de cette émission dans la longue durée d'une époque à l'autre.
Cette dissymétrie d'ailleurs a amené la doctrine militaire occidentale à changer totalement d'approche et la doctrine qui prévaut actuellement précisément, c'est ce qu'on appelle l'approche globale qui amène à considérer la guerre, ou en tout cas les épisodes strictement guerriers, dans un ensemble beaucoup plus large, qui fait qu'on a affaire à des populations qui souvent d'ailleurs sont des populations civiles, et donc on ne peut pas se référer au modèle traditionnel de la guerre, où des armées obéissant à des gouvernements organisés s'affrontent. Et donc c'est le référentiel même de la guerre qui est reconsidéré aujourd'hui, en particulier dans une composante qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, où là, la frontière entre civils et militaires, entre combattants et non-combattants, s'estompe totalement, ce qui pose aux organisations internationales une difficulté majeure, qui est la difficulté de légiférer sur ce type de conflit, comme on le voit par exemple à Guantanamo, où les prisonniers qui y sont détenus le sont en toute illégalité.
Votre livre majeur sur cette question s'appelle « L'individu et la guerre » du chevalier Bayard, nous l'avons vu, au soldat inconnu, il est passé aussi, paru chez Belin tout récemment en 2013. Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été proposée une première fois le 16 novembre 2013. La semaine prochaine, nous rediffuserons une émission intitulée « Les cités italiennes, laboratoire d'une république » avec Patrick Boucheron. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Pierre-Henri à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque, et pour les Archivina, Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.